Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. José Nawej, il est journaliste et éditeur du journal Le Forum des As, paraissant à Kinshasa. Bonjour José Nawej.
Bonjour cher confrère Guy Maté.
Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central. Bonjour Madame Annie Massengou.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, journaliste et écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA, en sigle de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Bonjour Monsieur Eddy Kaba.
Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de José Nawej, journaliste et éditeur du journal Forum des As paraissant Kinshasa. Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, est en ligne depuis Paris, capitale de la France. Eddy Kaba, journaliste et écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA, de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Au menu de cette émission, le discours du président à l'ONU sur le retrait accéléré de la MONUSCO, l'intervention du chef de l'État à New York sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC, et enfin, Félix Tshisekedi qui confirme à New York sa candidature à la prochaine présidentielle et s'exprime au sujet de l'incarcération du journaliste Stanis Boujakera. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la Journée internationale de la paix. En effet, chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. L'Assemblée générale des Nations unies a institué cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Jamais notre monde n'a eu autant besoin de paix. Le thème de cette année est « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». À ce sujet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré « La paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. La guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté et la faim et chassent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. Le chaos climatique est omniprésent et même les pays pacifiques sont en proie à des inégalités criantes et à une polarisation politique. » Monsieur José Nawej, que peut signifier pour vous la célébration d'une telle journée dans un pays comme la RDC, qui connaît une insécurité récurrente, surtout dans sa partie orientale depuis plus de 20 ans?
Oui, il va sans dire que cette journée a une résonance tout à fait particulière, vous l'avez souligné, en RDC, où depuis un quart de siècle, il y a, disons-le clairement, rupture de paix. En particulier dans l'est de la RDC, à la suite de la guerre d'agression et de rapine, dont le Rwanda et par intermittence l'Ouganda sont des sous-traitants visibles. Mais la paix n'est pas trivialement synonyme d'absence de guerre ou de conflit. La paix, c'est un état d'esprit général. Comment en effet être en paix dans un monde où les inégalités, la loi du plus fort, le double standard sont quasiment la norme? on déplore ça et là, sur notre continent africain, des cas de terrorisme, d'extrémisme, mais on ne se demande pas toujours quels en sont les ressorts. Je ne passerai pas, mon confrère qui est à Paris est mieux placé que moi pour aborder ces questions sur le plan géopolitique, mais moi je dirais tout simplement que quand je considère par exemple le cas libyen, l'élimination, la liquidation du colonel Kadhafi a été à l'origine de la déstabilisation en partie ou en grande partie, disons-le, du Sahel. Ça signifie que s'il y a rupture de paix dans beaucoup de pays africains de l'Ouest, cela est en partie dû à cette élimination du leader libyen dont on n'a pas assuré les services après-vente, si je peux m'exprimer ainsi. Voyez-vous qu'une chose est d'en appeler à la paix, mais une autre est de créer les conditions au niveau de la communauté internationale pour réduire les raisons de la déstabilisation du monde.
Merci, merci Madame Annie Massengou. La célébration de cette journée vous inspire quoi?
Merci beaucoup. Je me suis posé plusieurs mille et une questions autour de cette célébration. Je me demandais si elle valait vraiment la peine. Parce que on ne peut pas en même temps vouloir la paix et en même temps en train d'enrichir la guerre. C'est comme l'a dit M. Nawes, la communauté internationale doit quand même se munir de tous les dispositifs pour faire en sorte que cette paix règne réellement. Comment peut-on parler de la paix dans un monde où il y en a qui se considèrent comme étant des grandes puissances, qui matent les autres? Il y en a aussi qui considèrent les autres comme étant des petits peuples qui ne peuvent avoir rien à dire, qui ne peuvent rien décider, on décide à leur place. On peut armer les uns pour tuer les autres. Et comment peut-on parler de la paix là où on laisse libre cours à la vente des armes, la fabrication et la vente? Le marché des armes, c'est un grand marché qui donne fortune à ceux qui les exploitent. Et du coup, on vient, on dit non, écoutez, il faut promouvoir la paix. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que, bon, on choisit un jour où on dit, nous ne voulons pas entendre le bruit des armes, le 21 septembre. On choisit un jour comme ça, ça démontre que nous pouvons avoir juste une trêve le 21 septembre, que tout le monde arrête, on ne veut pas entendre les cris d'armes. Tout le monde arrête, tout le monde cesse, on observe pendant un temps. Et le lendemain, le surlendemain, qu'est-ce qui va advenir? Il faut par contre chercher des dispositions solides pour faire en sorte que le monde soit un monde universellement égalitaire qui permette à tout le monde de se considérer comme étant un citoyen du monde au même titre que les autres, particulièrement l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus marginalisé et nous comprenons que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a fêté ses 75 ans, c'est une déclaration tout simplement qui protège les droits. Donc les droits de l'homme, ça ne concerne que l'Occident. Et pour ce qui est de l'Afrique, l'Africain n'est pas considéré comme un être humain qui a aussi des droits qui doivent être protégés. C'est pourquoi il y a des guerres, ça et là, et on alimente ces guerres-là, on alimente des rébellions, on alimente toutes ces choses-là, pour déstabiliser en fait l'Afrique. Je pense que si nous voulons parler de la paix, il faudrait que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité et qu'on arrête de penser qu'on peut arracher à tel pays sa souveraineté, on peut lui arracher ses biens, on peut lui arracher ses ressources naturelles. Et le pays ne peut pas revendiquer, ne peut rien dire. Et si elle essaie de dire quelque chose, allez, ce sont les armes qui tombent. Voilà un peu ce que je peux dire autour de ça.
Merci. Seydi Kaba, au moment où le monde célèbre cette journée, plusieurs pays africains font face à des conflits armés qui apparemment sont loin de connaître un règlement pacifique. Cette journée ne devrait-elle pas servir d'occasion pour voir comment réfléchir sur la résolution, n'est-ce pas, de ces conflits armés, notamment en Afrique?
Oui, absolument. Il faut sortir du caractère formel qui amène à célébrer chaque année la journée mondiale de la paix. Et cette journée doit être l'occasion de faire le bilan pour constater ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Au-delà du caractère festif, ça doit être un moment de réflexion. Il n'est pas normal que chaque année on célèbre la journée mondiale de la paix et que le monde vive avec moins de paix qu'il ne l'a vécu pendant les années précédentes. Donc il y a un problème. Et si on veut donner, on veut conférer une utilité à cette journée, il faudrait qu'elle soit justement l'occasion de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça doit être un moment de bilan et ça doit être un moment pour définir de nouvelles perspectives. Lorsqu'on prend le continent africain dont vous avez si bien parlé, il y a un problème avec le type de réponse qu'on a apporté aux défis sécuritaires, aux crises que notre continent vit. Parce que si le paradigme était adapté, on n'aurait pas vécu la persistance des crises et même une aggravation de crises. Par exemple, quand on prend l'exemple précis du Sahel, le Sahel ne s'est jamais aussi mal porté. Et la situation ne fait que se dégrader. Donc, une telle journée, si elle veut être efficace, devrait être l'occasion justement de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. À mon avis, c'est si on donnait un contenu de cette nature à la journée, on lui donnerait une certaine utilité. Il ne s'agit pas simplement d'incantation, de se dire voilà que c'est la journée de la paix, etc. Il n'y a pas de slogan. Mais il faut que ce soit le moment d'un bilan. Et il faut que ce soit le moment où on adapte les solutions aux problèmes. Parce que si les solutions ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut les adapter et il faut les rendre plus efficaces. À mon avis, si on faisait cela, ça donnerait plus d'utilité à la journée aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit utile simplement de célébrer, de faire de grands discours, alors que la situation concrètement sur le terrain ne s'améliorera pas particulièrement dans les pays africains où les crises ne font que s'aggraver.
Merci, on prend une petite pause avec Rimamba Mi de Lucky Dube et on revient juste après. C'était Remember Me de Lucky Dube, c'est reggae-man sud-africain qui nous a quittés il y a quelques années. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé mercredi 20 septembre au retrait accéléré de la MONUSCO de son pays. Il a lancé cet appel dans son discours à la tribune de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis d'Amérique. Il a estimé que plus de 20 ans après l'arrivée de la mission onusienne, il était temps qu'elle se retire pour permettre à la RDC de devenir l'acteur de sa propre stabilité. Félix Tshisekedi a souhaité que ce retrait débute à partir de décembre 2023 afin d'apprendre apaiser les tensions entre cette mission et les populations. José Noé, je vous êtes journaliste et éditeur du journal Les Forums des As, paraissant à Kinshasa. Vous avez souhaité nous parler du discours du président de la République aux Nations Unies sur le retrait accéléré de la MONUSCO. On vous écoute.
Oui, écoutez, tout d'abord, un simple parallélisme des formes, chers confrères. La MONUSCO, dont la MONUC est l'ancêtre, est en RDC à la faveur d'une invitation du gouvernement congolais. Il y a près de 25 ans qu'on vient de le dire, et c'est le même gouvernement congolais, tout simplement avec le principe de la continuité de l'État, qui demande souverainement à la même mission onusienne de se retirer. Quoi de plus normal, quoi de plus logique? D'autant aussi que le bilan de cette mission, pour ne pas entrer dans des polémiques inutiles, disons que ce bilan est mi-figue, mi-raisin sur le double front de la protection des civils et de la stabilisation du Congo. Oui, seulement, comme je le faisais observer dans mon éditorial de cette semaine, d'une des éditions de cette semaine, Kinshasa ne devait pas non pas confondre vitesse et précipitation en jetant le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. On a quantité de choses à reprocher à la MONUSCO. Les populations elles-mêmes de l'Est du pays ont à plusieurs reprises reproché ce qu'elles considèrent pas forcément à tort comme l'inaction de cette mission par rapport aux incursions de forces rwandaises et de leurs supplétifs congolais. On y reviendra, j'imagine. Mais force est de reconnaître aussi que face à l'affaiblissement de l'État congolais et de ses technostructures, la MONUC hier, la MONUSCO aujourd'hui, est d'un apport non négligeable. Nous devrons le reconnaître. Vous savez que la logistique dans beaucoup de régions de l'Est est assuré par logistique, j'entends transport, j'entends beaucoup de choses, est assuré par la MONUSCO. Des choses que l'État aurait dû faire, mais comme il y a moins d'État, c'est la MONUSCO qui suppléie. Il faut le reconnaître. Et maintenant, le problème, c'est que quand le président, tout souverainement, décide du retrait accéléré de la mission onusienne, la question qu'on se pose, c'est de savoir si, dans l'immédiat, il y a une alternative à ce départ. Parce qu'une chose est de demander le départ de la MONUSCO, une autre est de s'assurer que l'on saura, dans l'immédiat, combler le vide que le sera cette mission-là. Il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal qu'il est censé guérir ou soigner. Voilà un peu mon sentiment par rapport à cette intervention du président qui, sur le principe de la souveraineté des États, est tout à fait irréprochable, qui, sur le principe du parallélisme des formes, est tout autant irréprochable, mais la question est de l'ordre de l'intendance, si vous voulez. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après le départ de la MONUSCO, qu'on observe un certain chaos dans certaines parties du territoire. Si la réponse a été trouvée, et tant mieux, aucun Congolais normalement constitué ne trouverait à redire, parce qu'il en va de la souveraineté même du pays. Vous savez, le professeur Bongeli, sociologue bien connu sur la place de Kinshasa, a fait un livre remarquable où il a parlé du nécessaire passage de l'état bébé à l'état adulte. Nous devrions, nous Congolais, vraiment effectuer ce sevrage-là. Cesser d'être un état bébé et devenir un état adulte. Mais cela ne se décrète pas, cela ne procède pas de l'incantation. Je viens de piquer le mot à mon estimé confrère qui est à Paris. Très souvent chez nous, nous confondons incantation et capacité à donner des solutions concrètes aux problèmes concrets. Nous sommes plus dans l'incantation, dans la communication, que dans l'action, que dans des réponses concrètes.
Merci. Merci, Madame Annie Matengu. Vous êtes membre de la société civile du Congo central. Retrait accéléré de la MONUSCO, ça s'est dit dans un contexte, hein, il faut les rappeler, dans un contexte où les forces de l'EAC sont désavouées, n'est-ce pas, par l'opinion publique congolaise. À votre avis, ça peut être quoi les dessous des cartes de ces retraits accélérés?
Bon, en fait, en tant que membre de la société civile, moi, je suis du côté de la population. La MONUSCO a comme mission de protéger les civils et sécuriser les civils. Mais malheureusement, ce qui se passe, qui est décrié par les compatriotes de l'autre côté de l'Est, et que la MONUSCO est inactive lorsque la population civile est attaquée. C'est ce qui fait le ras-le-bol, qui fait que la population maintenant, qui a longtemps observé l'inactivité de la MONUSCO, parce que lorsque, d'après ce que nous apprenons, lorsqu'il y a attaque, même si l'attaque est faite dans les environs de la position de la MONUSCO, elle n'intervient pas. Là, je ne sais pas si la procédure au niveau des Nations Unies est tellement lente pour qu'on puisse décider de ce qui doit être fait, mais même par la suite, il n'y a pas de réaction qui permette à la population de se sentir assistée par la MONUSCO. Ça fait plus ou moins 30 ans que la MONUSCO est là, mais il y a toujours des tueries à répétition à l'est de la RDC. Tout en sachant que dans ces tueries-là, les personnes qui sont à la base de ces tueries, ce ne sont pas à proprement parler des Congolais. Ce sont des forces étrangères, dont notamment le Rwanda, l'Ouganda, qui attaquent un autre État, qui tuent les civils. Les civils pour lesquels la MONUSCO est venue assurer la protection. Mais lorsqu'on se rend compte que celui qui est censé nous protéger observe comment on est en train de nous tuer, la réaction directe permettrait de dissuader ceux qui attaquent parce qu'on se renforce, on sait que non, mais si on nous attaque, il y a quelqu'un qui est là, qui nous protège. Au contraire, c'est que la population, c'est autre chose. Alors, c'est la population elle-même qui a demandé le départ de la MONUSCO. Nous avons vu comment il s'est attaqué à elle pour qu'elle parte. Partir, oui. Parce qu'à un moment donné, lorsque le rendement n'est pas à la hauteur, en ce moment-là, le service qu'on peut attendre d'une personne devient inutile. S'occuper de la logistique, si nous avons peur de ce qui va advenir après, par rapport à la logistique, je crois que la logistique n'est vraiment pas dans le mandat de la MONUSCO. La principale activité, c'est d'abord la protection des civils. Comment on peut être dans la logistique pendant que les populations civiles sont en train de mourir comme des mouches? Le retrait de la MONUSCO, s'il faudrait qu'elle parte, on ne dit pas que ça soit de façon brutale, de façon brusque, si la personne qui doit bénéficier de ces services ne veut pas, ne trouve pas son intérêt, autant mieux se séparer, comme ça la MONUSCO s'en va. Et on reste s'occuper de nos propres problèmes, mais pas de la manière brutale. On y va mollo mollo. Merci. Voilà un peu mon point de vue.
Merci, on y va mollo mollo. Monsieur Saïdi Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA, en sigle de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Peut-on faire les parallélismes avec les Mali, même si les contextes ne sont pas les mêmes, hein? On rappelle qu'au Mali, on a prié la MINUSMA de procéder au retrait accéléré, et en plus, il a été demandé, n'est-ce pas, aux forces françaises de pouvoir quitter le pays. Et ici, en RDC, on recommande à la MONUSCO d'accélérer son départ. Entre-temps, nous l'avons dit, les forces de l'EAC semblent avoir perdu, n'est-ce pas, tout crédit dans l'opinion congolaise. Et à votre avis, ça peut être quoi les parallélismes dans ces deux situations et quelles leçons peut-on en tirer?
Oui, je crois que, de façon générale, il y a un problème aujourd'hui avec les missions de maintien de la paix. Le concept, il a été inventé il y a une trentaine, peut-être une quarantaine d'années. Il ne peut pas avoir la même efficacité aujourd'hui. Les contextes ont changé, il n'y a pas eu d'adaptation. Et il y a aujourd'hui un problème d'efficacité des forces de maintien de la paix, que ce soit en RDC, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, en Centrafrique. Toute la difficulté, comme il a été si bien expliqué par les orateurs, on ne peut pas comprendre, et au Mali aussi on a vécu pareille situation, que des populations civiles soient attaquées dans la zone de trois frontières particulièrement, qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali, et qu'il n'y ait pas de réaction de la part des forces des Nations Unies, même pas pour protéger les populations civiles. Et souvent, les excursions se font non loin des casernements de ces forces de maintien de la paix. Donc, il y a le problème d'efficacité, qu'on retrouve aussi au Sahel, le problème d'efficacité. Il y a le problème du caractère très budgétivore de ces missions des Nations Unies, qu'on retrouve au Sahel et qu'on retrouve aussi en RDC et en Centrafrique aussi. Et il y a aussi le problème du rapport entre les contingents qui sont déployés et leur commandement, puisque dans beaucoup de situations, les forces de maintien de la paix obéissent plus à leur pays qu'au commandement interne de ces forces-là. Donc, tout ça crée la situation qui a amené le Mali à demander le retrait accéléré de la force de la MINUSMA. Parce que on n'a pas vu l'efficacité de la MINUSMA au Mali. On n'a pas vu la valeur ajoutée que apportent les forces de maintien de la paix dans la lutte contre le terrorisme. Au contraire, entre le moment où la mission a été déployée en 2013 et aujourd'hui, 10 ans après, il y a eu même une extension territoriale de la menace. La menace au Mali, en 2013, c'était simplement 20% qui était concentré dans le nord à la frontière avec l'Algérie, autour de Kidal, autour de Tombouctou, autour de Gao. Aujourd'hui, la menace a gagné 80% du territoire malien, elle s'est exportée au Niger, elle s'est exportée au Burkina, elle commence même à s'exporter au pays du Golfe de Guinée. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, tous ont été attaqués. Donc, sur le plan de l'efficacité de l'administration et même de Barkhane, on n'a pas vu cette efficacité puisqu'il y a une extension territoriale. Les groupes djihadistes, souvent, quand vous demandez que ce soit à Barkhane, que ce soit à l'administration, on dit qu'on a neutralisé 3000 terroristes. Entre-temps, les groupes terroristes ont recruté 15 000 personnes parce qu'on ne s'est pas attaqué au terreau favorable au recrutement des jeunes. Donc, tout ça amène à voir aujourd'hui, que ce soit en RDC, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, le problème de l'efficacité des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Et il faut avoir le courage de poser cette question, je pense. L'échec au Mali, l'échec en RDC, l'échec en Centrafrique doit amener à repenser. Or, l'ONU est une machine beaucoup trop lourde. Entre le diagnostic et les solutions, ça prend du temps. Malheureusement, pendant ce temps, des milliers d'Africains continuent de mourir du fait de l'inefficacité de ces missions de maintien de la paix, du fait de leur caractère budgétivore. Je pense qu'il faut réfléchir à
transférer les moyens que on met dans ces missions aux forces armées des pays, quitte à leur apporter l'encadrement et l'équipement nécessaire pour qu'elles fassent le travail. Moi, je peux vous dire que s'agissant du Sahel que je connais le plus, si on donnait les milliards de dollars qu'on a investis dans les missions de maintien de la paix sans qu'on obtienne d'efficacité équivalente, si on donnait ces sommes-là aux forces armées des pays concernés, on leur apportait l'équipement, la logistique nécessaire, elle obtiendrait beaucoup plus de résultats que les 4 des Nations Unies. Donc, il faut savoir tirer les leçons de ces échecs, parce que bon, on peut capitaliser les leçons apprises pour avoir une meilleure efficacité et pouvoir protéger davantage les populations.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, le mardi 19 septembre, l'artiste et musicien John Paul, l'une des belles voix de la musique congolaise moderne, a totalisé 30 ans dans l'au-delà. Et pour lui rendre hommage, nous allons écouter Mbongo, Mbongo, cette composition de Simaro Lutumba, que John Paul avait interprétée en 1977. Et on revient juste après.
Kangelanga boato e kotiola e Likone koinda yo kabo kili ezali de koningana Lisolo mosusu te kaka sembongo e Odele anganga mama e Mikolo mikomi de nasuka e Bolingo zali koboyanga e O mokolo ya yambo Na bosana kikotuna yo selija e Dati yo koboyanga e Likoneko inda tala na zingi maboko na moto Kela nitune langa nani asala mbongo Eloko yo mobongisi, eloko yo mobebisi Nale lantina nini Onda koyanganga, bape kisanga ndena kota ho Kela ni noki na suwari boma ho Mbongo mama Pasi ele kipa nganga Batonda ndelo kuta oo Nganga nazwi malwere lokola ngai Ikambo ya somo nganga Sengi ngali susu mbongo Eloko yonga nazari koluka Desespoir selija depisanga mbongo Na dondwa Nazari na mbuka ya motote Bika o tata Hiya marabu balobi Ode na zambe Bobo na nakao Tunelanga na zambe Likambo oyo Eloko yombongo Ebo yando ina mokilie Nale lantina ninye Soki olandi mbongo Eko suka se oloko tae Bibembe ansoso na fulu ya kinga buao Moto asala mbongo Ati kampasi na mokili yombongo Toko funda yo na nzambe ho Mbongo e, mbongo, mbongo ho yokaki lisolo na yo na bakulutu bakosolola e bazali kotonga yo mbongo e loboko na nkopo monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo e balobi mama na yo abotaka bino mibale yo nde mwana ya liboso leki alanda yo na nsima bapesa kombo mwasi e boningisi mokili yo mbongo
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la Journée internationale de la paix. Nous avons également analysé le discours du chef de l'État sur le retrait accéléré de la MONUSCO. Participe à cette émission, José Naoué, il est journaliste et éditeur du journal Forum des As, c'est paraissant Kinshasa. Madame Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddie Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire des recherches en histoire de l'Afrique, JIRA en sigle, de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Le président Félix Tshisekedi a demandé mercredi 20 septembre au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner des responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que des violations graves des droits de l'homme en RDC. Il a fait cette demande dans son discours prononcé à la 58e Assemblée générale de l'ONU. Il a par ailleurs salué les sanctions infligées par les États-Unis au Rwanda pour son soutien au M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans leur aventure en RDC. Il a rappelé que le M23 continue à massacrer les populations civiles et refuse les cantonnements. Les M23 exigent un dialogue qui ne leur sera jamais accordé, a martelé le président Tshisekedi. Madame Annie Massengou, vous avez opté pour ces sujets relatifs à l'intervention du chef de l'État à New York, spécialement sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Et on vous écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Il est évident que c'est depuis les renversements du pouvoir du maréchal Mobutu que les Rwandais s'étaient introduits dans notre pays, la République démocratique du Congo. Au départ, il y a eu une rébellion bien préparée par le Rwanda qui a été portée par le président Mzé Laurent Désiré Kabila et dont les hauts fonctionnaires militaires étaient des Rwandais. Les officiers rwandais ont préparé la rébellion, l'ont conduite jusqu'au renversement du pouvoir du maréchal Mobutu. Et depuis lors, moi je peux dire que le Rwanda n'est jamais parti de la RDC. Depuis lors, la RDC connaît une instabilité inexplicable. Il y a eu formation de milices de différentes sortes. Nous avons eu le passage de Bosco Ntaganda, qui se disait être congolais, et pour finir, on apprendra qu'il était rwandais. Donc on comprend que c'était les pouvoirs rwandais qui l'avaient instrumentalisé. Il y a eu des Kunda Batware. Il y a eu toutes sortes de personnes qui sont passées, qui ont exercé des exactions sur les populations congolaises. Aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise pratiquement qui devient le M23 qui entre au pays et qui massacre les Congolais. Une milice devant une armée régulière, ne peut pas faire face. Mais cette milice qu'on appelle M23 fait face à l'armée régulière, récupère des parties du pays avec des armements lourds. À l'époque de Joseph Kabila, il avait été dit que les M23 étaient maîtrisés. On a ramassé tout ce qu'ils avaient comme armement, tout et tout, dispersé, ça n'existait plus, ça n'existait plus. Mais la réapparition en 2021, on a dit que ce groupe-là est dissous. En 2021, le groupe réapparaît avec une force très déterminante et commence à tuer les populations civiles et déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Il a été démontré suffisamment, même dans le rapport des experts des Nations Unies, en 2022 ici, que le Rwanda était impliqué fortement dans la déstabilisation. On a pu mettre la main sur les tenues des militaires rwandais, on a pu mettre la main sur les munitions utilisées au Rwanda, on a pu mettre la main sur beaucoup de choses qui appartiennent à la force militaire rwandaise, ici, chez nous, en RDC. Mais devant un pays rebelle de cette envergure, il faut prendre des mesures draconiennes pour décourager sa déstabilisation dans notre pays souverain. Il va falloir que la communauté internationale réagisse.
Merci madame, on a compris. Monsieur José Naouège, au-delà de cette demande du chef de l'État à la communauté internationale pour sanctionner, n'est-ce pas, le Rwanda pour son implication dans la déstabilisation de la RDC, l'éventualité d'un dialogue avec le M23 a été rejetée par Félix Tshisekedi. Et à votre avis, quelle pourrait être l'alternative au dialogue?
Oui, écoutez, chers confrères, d'abord avant de répondre plus précisément à votre question, je voudrais quand même dire d'un mot par rapport au premier volet de la question, à savoir ce qui apparaît comme l'entêtement du Rwanda. C'est que nous avons tort, y compris nous journalistes, de prendre le Rwanda comme l'alpha et l'oméga de ce conflit, vieux d'un quart de siècle, de cette agression vieille d'un quart de siècle. Ce n'est pas que le Rwanda. Le Rwanda, c'est sans doute la partie visible de l'iceberg. Ça, c'est très important. Ça explique le reste. Sinon, si ce n'était que le Rwanda, comment vous imaginez et que ce n'est pas faire offense à cet État qui est souverain et que, sur le plan de la géopolitique mondiale, que pèse le Rwanda par rapport à la RDC? Vous pensez vraiment que le Rwanda peut narguer et la communauté internationale, en commençant par les organisations sous-régionales dont elle ignore les actes, les accords, c'est-à-dire le Rwanda et ses supplétifs rebelles qui s'appellent aujourd'hui M23, qui s'appelaient hier CNDP, on peut remonter jusqu'au début. La réponse est non. Si aujourd'hui, on a vu le président français est passé chez nous à Kinshasa en mars, il y est allé d'un ultimatum, et tout le monde voit bien que le Rwanda et le M23 se sont moqués de cet ultimatum. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous prenez les sanctions des États-Unis d'abord. Le président s'en est félicité, à juste titre. Mais il faut vite ajouter que, un, c'est des sanctions marginales, c'est pas draconien, comme l'a dit notre compatriote Massengo. Mais en plus, Washington continue à renvoyer dos à dos armée rwandaise et armée congolaise, en disant, grosso modo, je schématise, que si le Rwanda est présent dans l'est de la RDC, c'est quelque part en réaction au soutien, j'ouvre les guillemets, je vais les refermer, au soutien que apporterait les FARDC au FDLR, au fantomatique FDLR. Et donc, ça légitime un peu ces incursions du Rwanda, alors que tout le monde sait que ces FDLR-là n'ont jamais déstabiliser le Rwanda et que le Rwanda est très calme, tout se passe sur notre territoire. Bon, quant maintenant au dialogue avec le M23, vous savez, le problème, c'est que il n'y a pas de diplomatie pour de la diplomatie, il n'y a pas de politique pour de la politique. dans ce monde, tout est question des rapports de force. Et l'élément déterminant dans ces rapports de force par rapport au conflit de l'Est, il est militaire. Il est militaire, il est sécuritaire. Et tant que militairement, nous, Kinshasa, nous, Congo, nous n'aurons pas les moyens de défendre notre territoire, nous continuerons à sous-traiter une question aussi vitale que la défense du territoire, eh bien, nous serons toujours à la merci des aléas, des impondérables, des conjonctures de la politique internationale. Vous savez, vous avez évoqué l'EAC, vous pouvez évoquer et les autres pays qui viennent, tous ces pays qui viennent ici, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Et c'est à nous à définir notre politique de défense et être en mesure de défendre notre territoire de manière à ce que les autres ne viennent qu'en appoint. Et donc, l'alternative pour répondre maintenant à votre question, chers confrères, ce détour, à mon avis, valait la peine. L'alternative, c'est de s'imposer sur le terrain militaire. Il n'y a pas d'autre alternative. Si on ne s'impose pas sur le terrain militaire, si on ne récupère pas Bounagana, si on ne récupère pas Rutshuru, la partie de Rutshuru qui est sous occupation, et la partie de Masisi qui est sous occupation, eh bien, on n'aura pas d'autre alternative, malheureusement, que de parler avec ceux avec qui on ne veut pas parler. La seule manière de ne pas parler avec eux, c'est de récupérer nos territoires par la force. Parce qu'il est établi en 25 ans d'agression que la diplomatie, que la voie diplomatique, la voie politique est sans issue.
Merci. Merci, Saïdi Kaba. Tous les partenaires de la RDC, notamment les organisations sous-régionales, l'Union africaine et même les puissances occidentales, estiment que la crise sécuritaire en RDC doit passer par un règlement politique. Mais en dépit de toutes ces positions, le président congolais refuse tout dialogue avec le M23. Et à votre avis, ça pourrait être quoi le plan B du gouvernement congolais pour solutionner la crise de l'Est?
Non, je pense que incontestablement, la force est nécessaire pour marquer le territoire. La force est nécessaire avant d'aller à la discussion. Parce que si on ne crée pas de rapport de force favorable sur le terrain, on va à la discussion avec une certaine faiblesse. Si maintenant la RDC réussit sur le terrain justement à reconquérir des parties de son territoire qui ont été occupées actuellement par le M23, dont il est établi, y compris par les Nations Unies, qui bénéficient d'un soutien extérieur, pour ne pas citer le pays que vous connaissez, qui a été mis en cause ouvertement par le rapport des Nations Unies, à partir de cet instant-là, la seule chose, à mon avis, qui reste pour la RDC, c'est de créer sur le terrain le rapport de force. Et à pouvoir, on a vu des jeunes Congolais aller se porter volontaires pour être enrôlés dans les forces de défense et de sécurité. Il faut leur assurer une formation, il faut avoir l'équipement qu'il faut. La RDC a les moyens, en tout cas les ressources financières, pour avoir les moyens matériels qu'il lui faut. À mon avis, ça, c'est la première étape d'abord. Assurer par la force armée la défense du territoire, créer avec le M23 un rapport de force qui l'obligerait à venir s'asseoir à la table de négociation. Ensuite, à partir de cela, trouver une solution politique durable. Ce n'est pas la première fois qu'une solution politique est trouvée. Mais si on trouve une solution politique et que le M23 s'aperçoit dans un an, dans deux ou trois ans, qu'il peut encore tenter sa chance sur le territoire congolais, il va le faire. Donc il faut trouver la solution politique après avoir créé le rapport de force, mais il faut aussi trouver une solution durable. Il ne faut pas que cette rébellion dont on a pensé qu'elle était totalement finie reviennent dans quelques années encore occuper l'agenda congolais. À mon avis, le Congo a beaucoup d'autres défis, tels qu'il a été rappelé, le défi logistique, le défi aujourd'hui des infrastructures pour relier les provinces les unes les autres, etc. Le Congo a d'autres défis que de continuer à faire la guerre. Et pour avoir une solution définitive à cette rébellion du M23, il faut, à mon avis, le rapport de force, la solution politique durable, et puis interpeller la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités. Parce que l'agression d'un pays par
des éléments armés venant de notre pays avec le soutien établi n'est pas acceptable. Et il faut que la communauté internationale aussi s'assume, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer, y compris l'Union africaine, y compris la CEAC. Toutes ces organisations doivent prendre leurs responsabilités pour éviter justement qu'on assiste en Afrique à l'agression des pays par des autres, ou que les pays africains puissent servir de base arrière pour que d'autres pays soient attaqués.
Merci. On prend une petite pause avec Ima, Gérard, Stéphanie des Kofi Olomidé. On revient juste après. C'était Ima, Gérard, Stéphanie des Kofi Olomidé. Chanson contenue dans l'album Noblesse Oblige, sorti en 1993. Kofi Olomidé avait obtenu un disque d'or en 1994 grâce à cet album. Je rappelle que nous avons dans cette émission M. José Naouej, il est journaliste et éditeur du journal Forum des As Paris Saint-Kinshasa, Mme Anima Sengou, membre de la société civile du Congo central, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Eddy Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA en sigle, de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est refusé mardi 19 septembre de commenter l'arrestation du journaliste Stanley Boujakira, puisqu'il s'agit d'une affaire judiciaire en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus, a déclaré le chef de l'État à la presse lors d'une conférence de presse mardi à New York aux États-Unis. Il dit respecter la séparation des pouvoirs entre la justice et l'exécutif. Le chef de l'État a affirmé plutôt se soucier du respect des droits de la défense pour que la justice soit convenablement rendue. Je tiens à la séparation des pouvoirs. En même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse, insiste le président de la République. Par la même occasion, le président Félix Tshisekedi a confirmé sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Saïdi Kaba, vous avez souhaité nous parler de cette actualité qui fait état de la confirmation par Félix Tshisekedi de sa candidature à la prochaine présidentielle et aussi au propos qu'il a tenu au sujet de l'incarcération de notre confrère, le journaliste Stani Boujakera, directeur général adjoint d'actualité.cd, correspondant du magazine Jeune Afrique. On vous écoute.
Oui, je pense qu'il était bon que le président Tshisekedi dise clairement qu'il est candidat. C'est pas un événement en soi, c'est pas un scoop. On sentait, au regard des éléments d'analyse qui sont déjà disponibles, que sa candidature était plus que probable. Mais le fait que lui-même le dise est une confirmation qui me paraissait nécessaire pour lever les derniers doutes sur sa candidature. Et le fait que lui-même, il est la personne la plus légitime pour dire qu'il est candidat, même si ses lieutenants ou d'autres personnes de son parti avaient déjà laissé envisager la possibilité qu'il se présente. Mais, à mon avis, le fait que lui-même et confirmer qu'il soit candidat était un événement important. La deuxième chose qui m'a paru intéressante, c'était les éléments qu'il a avancés pour justifier cette candidature, en disant, par exemple, qu'il y avait des sentiers qui étaient déjà en cours, et l'œuvre qu'il a déjà entamée, et qu'il n'a pas pu parachever au cours de ce premier mandat, avait besoin d'être poursuivi, et qu'il allait solliciter un nouveau mandat des Congolais, une nouvelle fois que les Congolais lui fassent confiance, pour pouvoir aller. Le troisième élément qui, de mon point de vue, paraissait intéressant dans ce que le président Tshisekedi a dit, il n'a pas encore, et je pense qu'on va voir, puisque la première fois il avait été élu à la suite d'une coalition qu'il a formée avec d'autres sensibilités politiques. Cette coalition, à l'épreuve du pouvoir, a un peu éclaté aujourd'hui. On va voir avec quelle nouvelle coalition, avec quels nouveaux acteurs, il va s'organiser pour aller à la conquête du pouvoir, parce que à mon avis, ça sera peut-être beaucoup plus difficile que la première fois. Et c'est pour cette raison que tous ces éléments m'ont paru intéressants. À mon avis, ce que le président Félix Tshisekedi a dit à New York était digne d'intérêt pour les personnes qui suivent l'actualité du Congo. Et comme vous l'avez bien dit, il a aussi parlé justement de la nécessité de respecter la séparation de pouvoir, y compris dans un cas de figure comme celui-là, où manifestement, en tout cas, au regard des éléments, et nous, en tant que professionnels de la presse, nous ne voyons pas de justification objective à ce que Stanislas Boujakera puisse continuer à garder la prison. Puisque, comme on sait, l'article qui est incriminé n'est pas signé de lui, et le lien qu'on a établi parce que le correspondant de Jeune Afrique, c'est sans doute lui qui a dû donner à Jeune Afrique, et ce sont ces arguments qui ne sont pas des arguments suffisants. On peut comprendre la posture du président Tshisekedi parce que ne pas s'immiscer dans les affaires de la justice et affaiblir l'institution judiciaire. Mais il est important aussi que le Congo soit perçu comme un pays où la liberté de la presse est respectée. Et ça, je pense que c'est un combat de tous les jours. Et je me permets à ce niveau de faire un parallèle avec la France. Parce que comme vous savez, il y a une de nos consoeurs d'un média ici qui a passé 40 heures de garde à vue cette semaine parce qu'elle a fait une enquête sur les forces armées françaises, notamment le fait que les moyens militaires donnés par l'armée française à l'Égypte soient détournés. Donc l'État n'a pas aimé. À chaque fois que l'État se trouve en position d'accusation, comme dans le cas d'espèce au Congo, où Jeune Afrique a révélé l'existence d'un rapport de l'ANR, et l'ANR a dit c'est un faux document. Donc il y a à chaque fois que les intérêts de l'État sont touchés, que ce soit au Congo, que ce soit en France, où je me trouve, qu'il y a une longue tradition de la liberté de la presse, il y a une tentation de pouvoir d'abuser et il est important de continuer à défendre la liberté de la presse et c'est pour cette raison que ce désinformation de la semaine m'ont paru importante pour être évoquée ici dans notre discussion.
Merci Madame Annie Massengou. Votre point de vue au sujet de l'annonce par le chef de l'État depuis New York de sa candidature à la prochaine présidentielle de décembre 2023, mais aussi au sujet de ce qu'il a déclaré par rapport à l'arrestation de notre confrère Stani Boujakera.
Oui, bon, c'était vraiment prévisible que le président puisse solliciter le renouvellement de son mandat. Et moi, je pense que avec les efforts que nous avons vu fournir, si bon, la population trouvait mieux de lui accorder encore un autre mandat, peut-être que nous pouvons voir qu'à ses deuxièmes mandats, il pourrait faire plus que ce qu'il a essayé de faire, parce que c'est comme on a dit, il y avait d'abord la coalition et le mariage là n'a pas été facile et il y a eu beaucoup d'embûches. Mais nous venons le voir maintenant sans coalition avec ceux qui sont sortis avant lui. Comment il va s'y prendre, s'il y aura encore des motifs, des raisons à donner, mais nous voulons voir le pays amené au changement. Et par rapport à sa déclaration sur la situation du journaliste Bouzakera, je pense que en toute responsabilité, sa position est neutre, comme il dit que l'affaire est entre les mains de la justice. Et que, bon, à la fin de tout, ce n'est pas parce qu'on est entre les mains de la justice qu'à tout prix, on finira par une condamnation. Lorsqu'on est devant les instances, on est présenté devant les instances judiciaires, tout comme la procédure peut s'arrêter au niveau de l'instruction préparatoire lorsqu'on estime que, bon, voilà, on n'a pas assez de charges à mettre sur la personne. Et que l'amener devant les instances judiciaires, on sera en difficulté de démontrer les charges sur la personne et obtenir sa condamnation. Et on peut toutefois classer les dossiers au niveau de l'instruction préparatoire déjà. Mais si on amène devant les cours et tribunaux, je crois que c'est une autre lunette qui va faire son travail. Et que si le ministère public n'est pas à mesure d'asseoir ce pourquoi il amène les journalistes devant les instances judiciaires, il sera acquitté en toute quiétude. Mais ce qu'il faut un peu qu'on évite, c'est la passion autour de la prestation des journalistes. On pense leur attribuer une certaine tendance ou une autre tendance. Et il faudrait qu'on comprenne que la presse est là pour informer la population et la presse est là pour aider, booster les développements. La presse est là pour réveiller l'attention des dirigeants sur un certain nombre de choses. Et que, bon, tout ce qui peut être dit à travers la presse n'est toujours pas constitutif d'une infraction. Donc, les gens doivent quand même apprendre à se dépasser, à dépassionner les appréhensions, les enquêtes et tout,
merci,
de manière à ce que tout le monde soit à l'aise. Merci. Voilà un peu les commentaires que je peux émettre par rapport à ça.
Merci. José Naoué, nous allons finir cette émission avec vous. Et l'annonce de sa candidature, l'annonce par le chef de l'État de sa candidature pour décembre 2023, peut avoir quelles conséquences dans l'opposition congolaise, hein? On sait que c'est une opposition qui est plurielle. Et vous avez la Mouka avec Fayoulou. On parle aussi du docteur Denis Mukwege. Il y a les FCC. Il y a Ensemble pour la République. Et les LGD, mais aussi ces déclarations au sujet de l'arrestation du confrère Sani Bouzakera peuvent avoir quelles conséquences sur la suite de ces dossiers judiciaires, José Nawaïj.
Oui, d'abord à propos de l'opposition, chers confrères, d'éventuelles répercussions, incidences de cette déclaration du président sur l'opposition, vous l'avez dit vous-même, l'opposition est plurielle et le fait que le vote, l'élection présidentielle est à un seul tour, ce n'est pas le président Tshisekedi qui a décidé qu'il en fût ainsi, vous savez d'où ça vient, ne facilite pas la tâche de cette opposition plurielle. Vous avez cité deux, trois noms, on pouvait encore en ajouter, bien entendu. Il y a dedans, il y a ce qu'on appelle l'opposition gentille, il y a les opposants du jour et le soir, ils font autre chose. Je passe, vous connaissez bien les arcanes de cette politique congolaise, au moins aussi bien que moi, et donc je passe sur ça, mais ce qui est évident, c'est que plus il y a des candidats dans l'opposition, mieux c'est pour le président Tshisekedi, et qui n'a besoin que d'une majorité simple, pour dire en arithmétique, pour passer, pour gagner. Et donc ça c'est par rapport à l'opposition. Je passe par rapport à la justice. D'abord, le président a tout à fait raison de mettre en avant la séparation de pouvoir, mais ce ne serait pas non plus faire injure à Montesquieu, qui a théorisé sur la séparation du pouvoir, en rappelant d'abord que le président, il est garant du fonctionnement des institutions. Et par institution, il y a aussi l'institution judiciaire. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appareil judiciaire, je veux dire, la manière d'interpeller, dans la manière de ceci, on ne voit pas les responsables dans la justice. Au niveau international, c'est l'image du pays, c'est le président que l'on voit, c'est le pays, c'est les signaux que nous envoyons à l'extérieur. Vous savez, le président est mieux placé, il appartient à un parti qui a combattu un certain type de gouvernance depuis des dizaines d'années, et dans ce type de gouvernance qu'il a condamné, il y avait aussi l'incarcération des hommes politiques et des hommes des médias. Or, on constate qu'on continue à arrêter les hommes politiques et qu'on continue à arrêter les hommes des médias. Ça pose quand même un problème. Il y a seulement 5 ans, 6 ans, ce qui est arrivé à notre confrère Bouchakira, on aurait dit Kabila a arrêté, Kabila a encore arrêté. Vous comprenez le problème? C'est que ici, au-delà de la séparation de pouvoir, il y a en fait la question de la responsabilité au niveau international. Si on pose le président sous ce genre de questions, parce qu'on sait, personne n'est dupe dans ces pays-là, que quelque part, c'est le président qui incarne les institutions. Et dans notre pays, sans doute plus que sur notre continent, sans doute plus qu'ailleurs. Et donc, quelque part, répondre par la séparation du pouvoir, c'est très bien, c'est tenable comme position, mais quelque part, ça ne rencontre pas tout à fait le fond du problème. Parce que quand dans un pays, le journaliste n'a plus droit à ce qu'on lui réponde via un droit de réponse, via une mise au point, la réponse devient la prison. Quand dans un pays, la prison, c'est la réponse qu'on met en avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, Congolais, nous sommes mieux placés pour comprendre ces choses-là. Et surtout si on a passé plusieurs années dans l'opposition, on sait très bien que parmi les indications d'un pays, d'un régime qui ne va pas très bien, il y a aussi ces genres d'éléments.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Annie Massengou, Monsieur Saïdi Kaba et Monsieur José Naurege. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Def Vita, sous la supervision d'Alex Essomé et de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Nzélé de Madilou System, chanson sortie en 1994 dans l'album Yajan, et on se retrouve le samedi prochain.
Solo amor, solo amor, perdí Jesús. Lingui.